Bonjour, aujourd'hui 31 octobre 1871, une rencontre historique, Stanley et Livingstone.
To honor the French, I have the great honor to present the man who found Dr. David Livingstone.
Mr. Stanley, I presume.
Ces quatre mots par lesquels, il y a tout juste 130 ans, un journaliste américain est entré dans l'histoire. Le 31 octobre 1871, Henry Stanley, reporter au New York Herald, retrouvait celui qu'il était venu chercher en plein cœur de l'Afrique, quelque part au bord du lac Tanganyika, le plus célèbre explorateur de son temps, David Livingstone. Depuis plus de trois ans, plus personne n'avait de nouvelles de cet homme qui s'était couvert de gloire en traversant le premier un continent dont on ne connaissait que les côtes, l'Afrique. Y était-il mort? Était-il encore vivant? Personne ne le savait lorsqu'en 1870, le directeur d'un quotidien new-yorkais, Gordon Bennett, envoyait un de ses journalistes à la recherche de Livingstone.
Stanley!
Get ready.
Stanley, vous partez en Afrique.
What am I supposed to be doing?
Pour y faire quoi?
Finding Livingstone?
Retrouver Livingstone.
What's his name is alive, and
si j'arrive à prouver qu'il est vivant, où voyez-vous un article?
Dr. Livingstone's a great adventurer. One of the greatest.
Le docteur Livingstone est un grand aventurier, un des plus grands. Regardez sur la carte, le continent noir, le mystère, la chaleur, la malaria, les cannibales. Une terre où même les plus grands n'ont osé s'aventurer. Alexandre le Grand, César, les pharaons d'Égypte, aucun n'a osé. Intact, inexploré, et quelque part par là, un homme remarquable. Un homme de Dieu qui a consacré sa vie à éclairer cette contrée obscure. Le voilà, votre article. Je pars.
Chez Gallimard, auteur entre autres, parce que vous avez écrit beaucoup de livres sur l'Afrique, mais auteur d'un livre qui m'a beaucoup servi pour cette émission, c'est l'Afrique des explorateurs. Alors parmi tous ceux qui ont découvert l'Afrique noire, il y a des noms qu'on a totalement oubliés aujourd'hui, Burton, Speke, Grant, Baker, Mary Kingsley. Mais alors il y en a deux dont le nom est resté célèbre et d'ailleurs associé dans nos mémoires, c'est Stanley et Livingstone, peut-être à cause de cette fameuse rencontre dont nous allons parler. On a l'impression presque que sans Stanley et Livingstone, on l'aurait oublié ou inversement.
Alors c'est plus ou moins vrai, parce qu'en fait c'est vrai que dans la mémoire collective européenne ils sont restés associés à cause de cette fameuse rencontre dont vous avez parlé, mais c'est précisément parce que Livingstone était déjà extrêmement célèbre en Europe et notamment en Grande-Bretagne que Stanley est parti à ses recherches, c'est-à-dire qu'il est parti à la recherche de quelqu'un qui était très célèbre. Et en fait, c'est grâce à Livingstone que Stanley doit sa célébrité, plus alors, que l'inverse.
Alors Livingstone, effectivement, très célèbre pour avoir découvert une partie de ce continent qui était totalement ignoré à l'époque, à Nugon. On savait très peu de choses.
C'est vrai, les Européens étaient extrêmement ignorants de l'intérieur du continent africain. Ils n'en connaissaient que les côtes, ils les connaissaient déjà depuis plusieurs siècles, au 19e, depuis 4 ou 5 siècles selon les endroits. Mais ils ne s'étaient que très rarement aventurés à l'intérieur. Et surtout, il y avait eu en fait des Portugais, par exemple, qui avaient probablement suivi des chemins intérieurs, mais soit qu'ils n'avaient pas laissé d'écrits, soit dont les écrits n'étaient pas devenus célèbres. Et la célébrité de Livingstone s'explique par le fait que l'Europe, à ce moment-là, commence à avoir envie de savoir comment est fait le continent africain.
Alors les Portugais le connaissaient, il y avait aussi les Hollandais qui l'avaient découvert et qui avaient pénétré loin à l'intérieur de l'Afrique du Sud. C'est d'ailleurs là que Livingstone débarque en 1840, il ne connaît pas l'Afrique, il a 27 ans et il arrive en Afrique du Sud, plus exactement à l'actuel Botswana, et il vient comme missionnaire et médecin, hein, pas explorateur au début.
Non, c'est vrai, il est envoyé à l'origine comme salarié d'une société de mission qui s'appelle la Société de Mission de Londres, qui est une société protestante, et il n'a a priori pas de but d'exploration particulier. D'ailleurs, il reste pendant 9 ans dans un petit poste un peu perdu
à Kourouman.
Avant de s'apercevoir que finalement la mission n'étant pas très, n'étant pas un très grand succès, il préfère probablement se lancer dans une autre vocation qui est celle d'explorateur, et d'autant qu'il est tombé en fait en milieu hollandais, les Hollandais ayant effectivement commencé à coloniser cette partie de l'Afrique depuis un certain temps, mais les Hollandais ne voient pas les Anglais d'un très bon œil. Donc cette rivalité européenne l'a aussi motivé à partir plus loin.
À partir vers le nord, il traverse le désert de Kalahari, ce qui est déjà un exploit. Oui. Il part en famille, il part avec sa femme, avec ses enfants, et puis il les abandonne, il découvre, je crois, le bassin du Zambèze, qu'on connaissait à peine à l'époque, où on ne connaissait même pas, et puis alors il abandonne, ou plutôt il renvoie sa femme et ses enfants en Angleterre, et puis il reste seul en Afrique. Et c'est ça, vraiment, la particularité de Livingstone, c'est vraiment un solitaire. Ce qu'il va faire, il va le faire seul, pratiquement, amigo.
Oui, c'est vrai, ça dépend de ce qu'on appelle seul, en réalité, parce que beaucoup de la renommée des Européens s'est bâtie sur ce mythe de la solitude. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que les Européens appelaient seul au 19e siècle, ça voulait dire seul blanc. Et en effet, il s'est littéralement débarrassé, de façon honorable, mais quand même, de sa famille, qu'il trouvait plutôt gênante, hein, pour l'ambition qu'il avait. Et en même temps, il tenait à être seul, c'est-à-dire entouré d'Africains, mais sans Européens, parce qu'il avait très bien compris que s'il voyageait avec d'autres Européens, sa propre gloire risquait d'en être diminuée. Il faut aussi voir ça.
Il est même aidé d'ailleurs par une tribu africaine, par un chef de tribu africain. C'est son premier sponsor avant même que les Anglais, la National Geographic Society l'aide. Il est aidé par les Africains. Et alors là, il commence un parcours à travers l'Afrique. Alors qu'est-ce qu'il cherche en Afrique? On écoute Livingstone, incarné par Cedric Hordkay, dans un autre extrait du vieux film de Henry King.
What keeps the white man away from Africa? Fear.
Qu'est-ce qui éloigne les blancs de l'Afrique? La peur. La peur de l'inconnu, la peur d'un espace vide sur la carte. Remplissez ce vide, chassez cette peur. Donnez au monde une carte juste et précise de l'Afrique et le continent noir aura vécu. Alors d'autres viendront, missionnaires, mais aussi médecins, enseignants, pionniers, qui apporteront la civilisation et chasseront les négriers tout en prêchant la fraternité dans un continent qui, de toute son histoire, n'a jamais entendu la moindre syllabe de bienveillance ou d'espoir.
Ce n'est
pas vraiment ce que j'appelle un missionnaire, Dr. Livingstone. Il est possible de servir son Dieu fidèlement sans perdre de vue la dimension humaine. À présent, excusez-moi, c'est l'heure du catéchisme.
Alors faire une carte de l'Afrique, on l'a entendu dans cet extrait de film, c'était ça l'objectif de Livingstone et de tous les explorateurs de l'époque, à Nugon, non?
Oui, c'est vrai, c'est cartographier l'Afrique, mais ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen, la cartographie. Et c'est un moyen, notamment, d'ouvrir des voies commerciales, d'arriver à s'implanter au moins économiquement et à terme, politiquement. Et Livingstone a été parmi ceux qui, en fait, faisaient pression pour qu'il y ait une plus grande présence européenne en Afrique. C'est vraiment les débuts de l'impérialisme. Et la cartographie doit être comprise comme un moyen de la pénétration, en quelque sorte, européenne.
Alors, une pénétration étonnante, parce qu'il va faire, au début des années 1850, une première expédition tout à fait inouïe. Il traverse l'Afrique d'est en ouest. C'est pratiquement le premier à l'avoir fait, Annibon.
Oui, c'est probablement le premier. En tout cas, c'est le premier dont on ait la certitude qu'il l'a fait et qui a fait part à l'Europe de ses découvertes. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement Livingstone est moins important pour ce qu'il a découvert que pour ce qu'il a fait connaître. C'est vraiment ce rôle d'intermédiaire entre ce qu'il a vu et ce que les Européens vont apprendre qui a fait que c'était quelqu'un de si connu.
Alors, il parcourt l'Afrique de l'Angola, l'actuelle Angola, l'actuelle Tanzanie, oui. De l'océan Indien à l'Atlantique, découvre les chutes du Zambèze, par exemple, hein, étonnante, avec une vapeur que l'on voit à 10 km à la ronde.
Hein. Des chutes que les gens sur place connaissaient parfaitement, donc il ne les a pas exactement découvertes, mais une fois de plus, voilà.
Et alors, il revient en Angleterre, il va y revenir brièvement. En 1856, il est accueilli comme un héros national. Oui. Il écrit un livre qui va avoir un succès inouï, vendu à 70 000 exemplaires, « L'exploration dans l'Afrique australe ». On en écoute quelques extraits sélectionnés par Stéphanie Duncan.
Oui, alors David Livingstone est persuadé d'avoir une mission religieuse à accomplir. « Je suis missionnaire dans le cœur et dans l'âme, dit-il. Je ne pourrais pas me satisfaire de n'être qu'un explorateur. Je suis d'abord un missionnaire et incidemment un géographe. » Alors, sa principale préoccupation est d'extirper l'esclavage d'Afrique. « La Providence semble m'appeler vers ces régions lointaines, dit-il. Si nous pouvons y entrer et y former un établissement, nous serons capables, en très peu d'années, de porter un coup d'arrêt au commerce des esclaves dans cette partie de l'Afrique. Quand on voyage avec l'objectif spécifique d'améliorer la condition des indigènes, tout acte devient noble. Alors, à cette idée de mission correspond bien sûr la conviction que le continent africain a besoin des lumières de l'Europe, n'attend que cela. Voilà par exemple ce que Livingstone écrit à propos du peuple des Ngwato. La population est tombée dans le plus bas état de dégradation, à la fois mentale et morale, à tel point qu'il doit être difficile aux chrétiens de chez nous de se faire une idée de l'étendue des ténèbres qui ensevelit leurs esprits. Mais Livingstone est persuadé d'avoir affaire tout de même à de bons élèves. Une fois délivré de la dégradation et des superstitions du paganisme, dit-il, l'Africain fait preuve de ses capacités de promotion à un degré éminent, et il est séduit par exemple par le peuple des Mangaja. La plupart des gens, dit-il, ont un aspect intelligent, avec des têtes bien façonnées, des visages agréables et des fronts hauts. Nous apprîmes bientôt à oublier la couleur de leur peau, c'est dire. Mais pour Livingstone, sa mission en Afrique n'est pas seulement religieuse, elle est aussi économique. Répandre l'évangile chez les païens, dit-il, doit inclure beaucoup plus que ne l'implique l'image courante du missionnaire. La promotion du commerce doit faire l'objet d'une attention spéciale. Et Livingstone se déclare, je cite, « mué par l'ardent désir de contribuer à l'ouverture du territoire africain, de désigner ce champ si fécond et si vaste à l'esprit d'entreprise ». Et encore plus concret et pragmatique, Livingstone ajoute « il faut promouvoir la préparation en Afrique de matières premières destinées à l'industrie européenne, car par ce moyen, nous pouvons non seulement mettre un terme au trafic des esclaves, mais encore introduire la famille nègre dans le corps constitué des nations. Le succès dans ce domaine pourrait conduire à terme à une plus grande diffusion des bienfaits de la civilisation. »
Livingstone aimait les Africains, on vient de l'entendre, mais il a eu beaucoup de condescendance à Nugon, hein, à l'évidence.
Oui, ça c'est le drame des explorateurs du 19e, c'est que même ceux qui étaient le plus favorables aux populations africaines faisaient quand même toujours montre d'un certain mépris, et que finalement le spectre de l'attitude des Européens, c'est entre un véritable racisme pseudo-scientifique, dont certains explorateurs se sont fait le relais, mais pas Livingstone, et une sorte de complexe de supériorité culturelle, disons, dont Livingstone a été un des meilleurs ou pires représentants. Par exemple, il disait fréquemment que l'un de ses buts était effectivement de réintégrer les Africains dans la grande famille humaine. Très noble intention, mais dont l'implication, on le voit tout de suite, est que les Africains en étaient à un moment sortis. Vous voyez ? Donc c'est sur cette contradiction joue Livingstone, en fait.
Adversaire de l'esclavage aussi, on l'a entendu. Hein,
Alors, adversaire de l'esclavage, mais là aussi, il a une position très ambiguë. Parce qu'en réalité, ça c'est un peu une pierre dans le jardin des Portugais, à ce moment-là. Parce que ce sont surtout les Portugais qui continuent à prélever des Africains à l'intérieur de la région où se trouve Livingstone. Alors, il y a quand même un but politique, hein, qui est de remplacer l'influence portugaise par l'influence anglaise. Et puis d'autre part, il est très dépendant des négriers qu'il dénonce. Parce qu'en réalité, très souvent, pour atteindre le point X ou Y qu'il s'est fixé, il doit se joindre à des caravanes négrières. Et là, il est en plein dans la contradiction.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Stanley Livingstone.
C'était Ntinoba, une chanson de Pierre Akindangé, une chanson très belle de ce continent auquel Livingstone a consacré toute sa vie, où il est reparti après son retour en Angleterre. Il est parti pour le compte de la Royal Geographical Society et à la recherche surtout des sources du Nil. Toutes les expéditions, les deux autres expéditions de Livingstone à Nugon, c'était ça, c'était un peu le Graal des explorateurs de l'époque. Il fallait trouver les sources du Nil parce qu'on ne les connaissait pas.
C'est vrai, les Européens sont obsédés par le Nil parce que le Nil, ça symbolise pour eux la civilisation égyptienne dont ils ont la conviction de descendre quasiment directement et ils cherchent en effet les sources de ce fleuve. Et les sources du Nil sont très compliquées à trouver, d'abord parce qu'elles sont multiples, ensuite parce qu'elles avancent très loin à l'intérieur du continent africain, c'est un fleuve extrêmement long, et que en fait c'est tout un réseau de lacs qui alimente le Nil. Alors ça, on commence à le comprendre dans les années 1860, mais de quel lac au juste s'agit-il, Livingstone et d'autres explorateurs l'ignorent encore.
Qui les découvre d'ailleurs, Livingstone, hein, le lac Victoria, le Tanganyika,
Il découvre tous ces lacs, en effet, oui. Pour l'Europe.
Mais il ne trouve pas les sources du Nil. Il confond avec un fleuve, c'était le Lualaba, qui était en fait le Haut-Congo, je crois.
C'est ça. Alors, le problème de ces fleuves qui sont très longs, c'est qu'évidemment, leur nom change selon les portions du parcours. Donc, il se trouve près d'un fleuve dont les peuples locaux lui disent « c'est le fleuve Lualaba », et lui se dit « je pense qu'il s'agit du Nil ». En fait, il a tort, mais ça, il ne le saura jamais. Et il pense que le Tanganyika donne naissance au Nil. En fait, il est trop au sud, et ce sont les successeurs qui découvriront le lac Victoria, le lac Édouard Albert, etc.
Et puis après des années de recherche, voilà qu'il disparaît, plus personne, alors qu'il est archi connu en Europe, en Amérique, il disparaît. Je crois qu'il ne peut plus donner ses nouvelles parce que les commerçants arabes qui parcouraient la région étaient évidemment hostiles à Livingstone parce qu'il n'aimait pas, il était hostile lui-même à l'esclavage. Et donc, plus personne n'avait de nouvelles de lui. Et c'est alors que le patron du New York Herald va à sa recherche, ou plutôt envoie Stanley à sa recherche.
Oui. Alors effectivement, c'est plutôt Livingstone qui est hostile aux Arabes à l'origine, d'ailleurs, plutôt que l'inverse. Mais évidemment, cette prise de position anti-esclavagiste fait que les gens qui parcourent régulièrement les régions africaines jusqu'à la côte n'ont pas très envie de lui rendre service. Or donc, en 1871, ça fait 3 ans qu'il n'a pas envoyé d'articles, de lettres, etc., comme il le faisait jusqu'à présent vers l'Europe. Et donc là, un magnat de la presse américain se dit que ça ferait une bonne publicité à son journal d'envoyer un reporter à la recherche de cette célébrité européenne.
Et ce reporter, ce sera Stanley, qui avait déjà couvert la guerre de sécession, qui était beaucoup plus jeune que Livingstone, qui débarque en Afrique, à Zanzibar, en 1871, et puis alors qui va faire une traversée en plusieurs mois, une traversée de la Tanzanie dans des conditions peut-être moins difficiles, parce que lui, il avait une énorme équipe avec lui.
Oui, mais en fait, paradoxalement, le fait d'avoir une énorme équipe, ça rend pas les choses beaucoup plus faciles. C'est-à-dire qu'il a des crédits quasiment illimités, hein, puisque son mécène lui a dit « allez-y, ne regardez pas à la dépense ». Donc il a plusieurs centaines de personnes qui le suivent, mais plusieurs centaines de personnes, ça veut dire trouver par exemple de la nourriture pour plusieurs centaines de personnes, et ça n'est pas évident.
Et puis alors il retrouve Livingstone, donc après un voyage de près d'1 an à travers l'actuelle Tanzanie, il le retrouve au village d'Ujiji, où se trouvait Livingstone, et le 31 octobre 1871, eh bien, c'est la rencontre historique entre les deux hommes, et puis ses premiers mots qui sont aussi devenus historiques.
Dr. Livingstone. La pression.
Dr. Livingstone, je présume.
Yes.
Oui.
Thank God, Doctor, I've been coming.
Dieu a voulu que je vous trouve enfin.
I'm thankful that I'm here to welcome you, Mr.
Je suis heureux de pouvoir vous accueillir, Monsieur.
Mr. Stanley.
Monsieur Stanley.
I've been traveling day and night since I found.
J'ai voyagé jour et nuit depuis que j'ai appris votre présence ici. Nous avons quitté Zanzibar depuis plus d'un an. Je vous cherchais, docteur.
No, I came to find you, doctor.
Vous me cherchiez?
Find me?
Non, c'était la célèbre rencontre entre Stanley et Livingstone il y a exactement 130 ans, le 31 octobre 1871. Ils vont rester ensemble très peu de temps à Nugon, en fait, un mois, je crois.
Oui, en effet, ils font un peu d'exploration autour du lac Tanganyika, puisque là, Livingstone s'est reconverti, si j'ose dire, avec une seule vocation, c'est celle d'explorateur. En fait, il a vraiment laissé tomber son premier métier qui était celui de missionnaire. Livingstone, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à passer 30 ans en Afrique sans faire un seul converti, alors qu'il y était parti comme missionnaire. Donc ils explorent ensemble les bords du lac Tanganyika et Stanley repart, ayant essayé de convaincre Livingstone de repartir avec lui en Europe, mais Livingstone ne veut rien entendre.
Et pourquoi voulait-il rester pour chercher toujours les sources du
Nil? Voilà, c'est ça, parce que c'est vraiment devenu son obsession. Il en a fait une affaire quasiment personnelle. Hein, il pense, il a raison d'ailleurs, que s'il arrivait à prouver quelles sont les sources du Nil, sa gloire, alors là, atteindrait des sommets. En fait, il n'a pas besoin de ça, il est resté effectivement très célèbre, mais c'est ça qu'il cherche, c'est devenu son obsession.
Ce sont les deux dernières années de sa vie, puisque Stanley le retrouve en 71, il va mourir lui en 73. C'est très triste d'ailleurs les dernières années de la vie de Livingstone à Nilon.
Oui, c'est assez dur parce que, il paye quand même relativement cher son refus de rentrer en Europe. À un moment, il perd sa caisse de médicaments et la santé des Européens est quand même très fragile hein, dans ces régions. Donc, il meurt dans la même région et ses aides, ses porteurs, ses gardes, ses guides trouvent son corps agenouillé. Bon, c'est en tout cas ce que veut la légende. Mais une fois de plus, il n'était pas si seul que ça. Hein, parce qu'il a quand même été accompagné pendant des années par les mêmes personnes qui étaient vraiment des explorateurs qualifiés, finalement plus que lui. Hein, Susi, Chuma, Jacob Wainwright, etc. sont les gens qui ont fait que Livingstone est devenu célèbre, et ce sont eux qui ont d'ailleurs rapatrié son corps sur la côte.
Après l'avoir embaumé, effectivement.
Voilà, avec des techniques, hein, en l'embaumant à l'alcool et au sel, pour que sa dépouille puisse regagner la côte, et de là être embarqué pour l'Europe.
Son corps est amené à Zanzibar, tandis qu'en Angleterre, justement, à la Royal Geographical Society, eh bien, on apprend la nouvelle de la mort de Livingstone.
Ça. A message has just been received from Zanzibar.
Messieurs, je viens de recevoir un message de Zanzibar. Le corps du docteur Livingstone a été ramené jusqu'à la côte par des porteurs locaux. Le docteur Livingstone est mort il y a plusieurs mois alors qu'il faisait route vers le Lualaba. Les porteurs ont également remis au consul britannique à Zanzibar un dernier message du docteur Livingstone, son ultime requête adressée à Monsieur Stanley. Trop faible pour continuer, est demandé à être enterré ici avec mes rêves. Mon fils, le flambeau m'a glissé des mains, venez le rallumer.
C'est Stanley, effectivement, à Nugon, qui va prendre la relève. Stanley, le journaliste, qui devient explorateur un peu à cause ou grâce à Livingstone.
Oui, mais c'est une relève qui a changé de nature, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, Stanley va se mettre au service politique de la colonisation.
C'est un homme plus brutal que Livingstone.
Ah oui, hein. Rien à voir. Hein. Bon, ils avaient des points communs, ils étaient tous les deux de la même époque, mais Livingstone était célèbre pour être quelqu'un de plutôt pacifique, alors que Stanley, lui, a laissé des traces extrêmement sanglantes de ses expéditions, notamment en descendant le Congo.
Oui, parce qu'il est en plus très orgueilleux. Il va donner son nom à toutes les villes, tous les fleuves. Il y a le Stanley Falls, les Stanley, Stanleyville, le Stanley Pool, là, qu'il découvre. C'est vraiment un autre personnage. Tandis que Livingstone, lui, a été enterré à Westminster, hein, à côté des rois d'Angleterre, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on s'en souvienne en Angleterre? C'est un peu la bonne conscience de l'Angleterre, dites-vous.
Oui, c'est vrai, c'est la bonne conscience européenne, encore plus que de la Grande-Bretagne. Stanley Livingstone, c'est quelqu'un qui était né dans un milieu extrêmement populaire et qui est devenu très célèbre. Alors d'abord, il nourrit le mythe du self-made man. On se dit, vous voyez, quand on veut, on peut. Et ça, c'est toute la société victorienne. Et puis, comme lui prétendait qu'il était en Afrique pour les besoins des Africains et pour civiliser, évidemment, on a retenu essentiellement ça, alors que les rapports entre l'Europe et l'Afrique à ce moment-là étaient déjà beaucoup plus complexes et évidemment beaucoup moins bénéfiques d'une certaine façon.
C'est l'avant-garde, au fond, de la colonisation européenne.
Tout à fait.
Merci à Nugon de nous avoir rappelé donc ce personnage extraordinaire qui était Livingstone et que l'on retrouve dans plusieurs de vos livres, L'Afrique des explorateurs vers les sources du Nil, publié chez Gallimard Découverte il y a 10 ans, mais qui est encore disponible, je crois. Et puis, plus récemment, vous avez écrit une introduction à l'histoire de l'Afrique contemporaine, publiée chez Armand Collin.
à lire également Fashoda, la bataille pour le Nil de Paul Webster, qui vient de paraître aux éditions du Félin. Ça, c'est une autre histoire dont vous allez peut-être nous parler. Vous avez pu entendre des extraits du film Stanley et Livingstone de Henry King, avec Spencer Tracy dans le rôle de Stanley et Cedric Hardwick dans le rôle de Livingstone. Vous pouvez retrouver ces renseignements, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros ou 2,21 francs la minute, et nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pilou Arnoux, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Semaine à tous. Alors, le programme de la semaine prochaine, lundi, une grande voix disparue il y a 20 ans et dont nous parlerons avec Alain Poulenc, Georges Brassens. Mardi, les relations franco-américaines depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mercredi, les origines d'une ville pas comme les autres, Rome. Jeudi, 1er novembre, notre grand témoin sera Mohamed Harbi et nous parlerons du 1er novembre 1954, le déclenchement de la guerre d'Algérie. Enfin, vendredi, avec toutes les émissions de France Inter, vous le savez, nous serons à Brive et je recevrai Jean Lacouture et Pierre Villepreux pour une histoire du rugby. Il est 14h30, vous êtes sur France Inter et vous avez rendez-vous avec Chris.